Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique.
Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Je suis avec Ewan McIntosh de No Touch. Ewan, on est présentement à l'Aquaps à Québec. Mm-hmm. Alors, merci d'être avec nous présentement. Ewan, qu'est-ce que tu fais comme travail?
Je dirige une équipe on a des bureaux à Édimbourg, en Écosse, à Melbourne, en Australie, et aussi aux États-Unis. C'est une petite équipe de professeurs, de créatifs, et on travaille, je dirais, 60-70% avec des écoles et le reste du temps avec les compagnies d'ingénierie, compagnies de marketing, de créativité pure et dure.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement comme service?
Pour les compagnies d'ingénierie, par exemple, c'est les aider à inventer les meilleurs produits. Et pour les écoles, c'est aider à augmenter la qualité de l'enseignement et la qualité d'expérience d'apprentissage. Et dans les deux cas, c'est aider les gens à penser différemment pour arriver à ça.
Selon toi, comment on peut améliorer la qualité de l'enseignement, comme tu viens de dire?
Le clé, c'est que ça commence par le prof lui-même. Ce qui ne marche pas, c'est les experts qui viennent dans les écoles dire « voici les cinq choses qu'il faut faire ». Et la semaine d'après, il y a un autre expert qui dit « voici les six choses qu'il faut faire ». Ou John Hattie qui dit « voilà les 130 choses qu'il faut faire ». Ça ne marche pas. Il faut que le professeur lui-même commence à poser la question « où est-ce que je suis fort ?» et travailler sur les choses, les pratiques dans lesquelles il est déjà fort. Donc souvent, on fait nos apprentissages professionnels de l'autre côté. On commence par dire « en quoi vous êtes faible ?» et « allez travailler ce qui est faible ». Nous trouvons que ça ne marche pas. Il faut que les professeurs trouvent en quoi ils ont une bonne capacité. Et dans une école, comme ça, vous avez une communauté d'experts intérieurs. Chacun sait qu'il est fort en rétroaction d'élèves. Celui-là, il est très fort à planifier des projets très intenses et immersifs. Et après, ils peuvent collaborer parce qu'ils savent qui a les qualités qu'ils cherchent dans l'école. Donc toujours, ça commence par le professeur. Nous sommes là pour souvent aider la direction à réfléchir comment ils vont planifier le développement de leur équipe. On est là pour aussi s'asseoir avec des professeurs et leur donner des idées, leur montrer la recherche. Mais c'est à eux vraiment de faire le changement, c'est à eux de faire le travail.
OK. Puis comment est-ce vous êtes capable de rallier des enseignants pour les inciter à changer?
C'est drôle. Je pense qu'on a un tribu qui croit dans la même vision que nous, que l'éducation doit être plus que se préparer pour un avenir. L'éducation doit vraiment vivre dans le moment et profiter du monde dans lequel on vit. Il faut aussi que les élèves soient capables de chercher et trouver leurs propres problèmes à résoudre. Pas qu'on leur donne des problèmes tout cuits, tout prêts, où il y a une bonne réponse. Je pense que tous les professeurs avec qui on travaille et avec qui on a le plus grand succès se tournent autour de cette idée d'ambiguïté, que le monde devient de plus en plus ambigu, et au lieu d'en avoir peur, et au lieu de... En fait, quand on a peur, on reste avec les mêmes moyens qu'on avait dans les années 80, les mêmes moyens pédagogiques. Au lieu de faire ça, ils disent non, il faut réinventer peut-être certains outils pédagogiques qu'on a. Il faut éliminer d'autres. Et surtout, ce qui marche très bien, il faut qu'on devienne des experts dedans. Et c'est surtout, je pense, la passion de penser différemment, juste pour penser différemment. C'est dur, mais c'est aussi là où tu vois les choses que t'as, comme tu ne les as jamais vues avant. Et ça fait plaisir aux gens avec qui on travaille, et ça nous fait plaisir aussi.
Ce matin, tu as fait la conférence d'ouverture ici à l'Aquaps, puis aussi tu as fait une conférence au Refaire la semaine dernière. Ce matin, tu parlais de provoquer.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire provoquer en éducation?
Ça dépend de si vous parlez d'un directeur d'école qui est devant moi ou un groupe d'élèves devant moi. Si c'est un directeur ou 70 directeurs comme j'avais l'autre jour, leur faire une provocation, c'est les aider à se réaliser que ce qu'ils croient être le grand défi de leur jour n'est pas du tout le grand défi. Souvent, les directeurs, les gens intelligents, ils sont très intelligents, mais ils sautent à la conclusion. Ils disent, oh, c'est ça le problème, il faut absolument qu'on le résolue. Et après, ils délèguent le travail de résoudre ce problème aux collègues. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est le mauvais problème. Et c'est pour ça que la plupart des collègues se sont mal motivés à le résoudre parce qu'ils disent, bah, c'est pas ça qui va améliorer notre vie. Donc, avec les directions, souvent, c'est dire, bah, ce que vous avez cru être le problème, c'est certainement pas ça. Allez chercher, allez parler aux gens, allez être un peu plus avec vos gens, avec vos tribus, pour mieux comprendre leurs maux de tête. Et après, leur montrer des outils pour mieux analyser les choses que les gens disent, les choses qu'on voit dans les écoles, pour pouvoir trouver des meilleurs problèmes à résoudre. Et on a eu des succès incroyables avec ça. C'est pas qu'ils ont trouvé des problèmes que personne n'a jamais vu dans l'école, mais c'est vraiment pouvoir dire avec une certitude, voilà le un ou deux problèmes principaux qui nous empêchent de faire ce que nous voulons vraiment faire. Et quand c'est des élèves devant moi, j'ai envie de les provoquer pour qu'eux, ils n'arrêtent pas de poser la question « pourquoi ?». À partir de l'âge de 7 ans, je trouve, les enfants arrêtent de poser la question « pourquoi ?». Ils pensent que dans nos têtes, les têtes des professeurs, il y a une réponse correcte. Ils pensent que leur travail, c'est chercher la réponse correcte, ou le deviner plutôt. Et ce n'est pas ça le monde. On a peu de réponses aux choses qui se passent dans le monde actuellement. Il faut une autre façon de réfléchir. Et ça, c'est une attitude qui embrasse, qui saisit l'ambiguïté, qui n'en a pas peur, mais qui a aussi les outils et les capacités demander pourquoi, vraiment fouiller dans les défis, trouver les vrais défis, et puis après les résoudre.
Chez les enseignants, ce serait quoi la provocation?
Pour la provocation principale, celui qui me cause le plus de problèmes, c'est si vous avez beaucoup de contenu à enseigner à l'école secondaire, par exemple, le moyen le plus efficace de le transmettre aux élèves n'est pas que tu les dises. Le moyen le plus efficace, c'est que vous donnez aux élèves une multitude de ressources, d'activités, et vous les laissez le temps d'explorer entre eux et de vraiment collaborer. Alors, très facile à dire, très difficile à faire. Et il faut dire qu'une bonne partie de notre travail avec les écoles, avec nos professeurs, c'est regarder la mécanique de donner plus de pouvoir aux élèves à choisir leur route de voyage. Mais voilà une provocation. Si vous voulez mieux apprendre, si vous voulez que vos élèves apprennent mieux, il ne faut pas que tu les enseignes. Une autre provocation, ce serait si vous voulez qu'ils fassent bien, il ne faut pas les noter. Et on a plus de 30 ans de recherche qui montrent ça d'être vrai. Et on a très peu d'écoles qui interdisent les notes jusqu'à l'âge où on doit transférer à une autre classe ou transférer à une autre année ou une autre école.
Puis les résultats que vous avez observés dans les écoles, vous avez travaillé dans des écoles à Berlin, en Allemagne, en Australie, Japon, ouais. Au Japon, etc. Quels sont les résultats? Ça ressemblerait à quoi une école dans laquelle vous avez été impliqué?
Bien, il y a deux genres d'écoles, deux extrêmes, je dirais. Il y a des écoles souvent internationales qui seront entre les meilleures du monde, déjà. Quand on commence à travailler avec eux, quand tu regardes sur papier, tu te dis « waouh, école incroyable ». Ça ne veut pas dire que les élèves sont très capables de penser pour eux-mêmes. Et ça ne veut pas dire non plus que les élèves sont très engagés par leur apprentissage. Et donc, quand on travaille avec eux, notre travail, c'est garder la note très haut, très élevée, et avoir plus de sourires, plus d'engagement et une pensée critique plus large. Au lieu des gosses qui disent « Excusez-moi, qu'est-ce que je dois savoir pour l'examen ?» Donc, quand personne dit ça dans la salle de classe, on a réussi avec ces écoles-là. Et l'autre extrême, c'est les écoles qui vont être fermées par le gouvernement parce qu'ils font un mauvais travail, selon le gouvernement. C'est ça qu'on leur dit en Angleterre. On vous dit, on les met dans une situation de contrôle politique parce que la note n'est pas assez bien. Et on a vu en 18 mois, 2 ans, que ces écoles, soi-disant ratées, on arrive à les aider à devenir des meilleures écoles de leur ville. Et on ne fait pas ça en 2 ans parce que c'était raté au début. On fait ça seulement parce que les professeurs et les élèves et les parents étaient un peu sous le contrôle politique, ils ne pensaient plus pour eux-mêmes. Et dès qu'on libère la pensée et on commence à penser créativement par rapport à ce qu'on a devant nous, toute école peut devenir excellente. Et souvent, c'est juste choisir vraiment deux ou trois clés pédagogiques. Souvent, c'est la rétroaction, c'est le questionnement, c'est les qualités de contenu auxquelles les élèves ont accès. Et ces trois choses-là, c'est déjà très difficile pour les professeurs. Ça fait beaucoup de travail, beaucoup à réfléchir, à changer sa pratique. Mais juste en changeant ces trois choses-là, on peut avoir une excellence dans les écoles qu'on ne voit pas ailleurs.
Ma dernière question, elle est particulière, à savoir pour quelle raison est-ce que les enseignants ou les écoles ont besoin d'une entreprise tierce pour implanter le changement? Pourquoi ça ne vient pas d'eux-mêmes?
Parce que quand vous êtes dans la soupe, tout ce que vous voyez, c'est la soupe. Il faut quelqu'un qui n'est pas dans la soupe pour voir que ce n'est même pas une soupe dans laquelle vous êtes. Et c'est une expression qui vient en tête, c'est l'idée de... Quand vous êtes dans une situation, souvent vous ne voyez pas que vous êtes dans une situation. Je pense que dans les vies personnelles des gens, ils peuvent reconnaître des moments dans leur vie. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient stressés. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils buvaient trop, mangeaient trop, ne faisaient pas assez d'exercices. Il y a un moment de crise, normalement, où on se rend compte qu'il faut changer sa vie. Les écoles n'ont pas besoin de faire ce moment de crise. Et c'est pour ça qu'un consultant, c'est utile. C'est quelqu'un de l'extérieur qui vient. Je ne veux pas dire que tous les consultants sont égaux. Il y en a des très mauvais. Mais nous, 92% des écoles avec qui on commence à travailler continuent à travailler avec nous après 2 ou 3 ans. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas résolu le problème de base. C'est parce qu'ils ont envie qu'on regarde d'autres parties de leur école, d'autres parties de leur direction. Ils ont des nouveaux employés qui viennent. Ils ont envie de voir comment on pourrait pousser celui-ci à faire mieux. Avoir un ami critique, c'est important. Et ce n'est pas nécessaire de payer une fortune au consulting. Pas du tout. Moi, je conseille aux écoles de trouver un conseil virtuel. Ce sont des gens dans la ville, dans le village, qu'on respecte. Ça peut être des jeunes, ça peut être des anciens élèves, ça peut être les vieux, les retraités avec une sagesse incroyable. Et on a le droit de prendre leur avis ou de l'ignorer, de ne pas l'écouter. Mais juste avoir des gens qui régulièrement vous disent « Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi pas faire comme ça ?» Ça ne coûte rien, ça vous coûte du café et des gâteaux. Et ça peut avoir une valeur incroyable. Et garder ça informel, c'est le plus important. Un consultant, c'est plus formel. Et normalement, on n'aime pas trop les choses difficiles, parfois, qu'un consultant dise. Et normalement, on a payé pour, donc il faut continuer à écouter.
Voilà.
Donc, on peut être celui qui tient le bras derrière le dos et qui dit « Allez, faites ce que vous savez et la bonne chose à faire. » Et parfois, il faut ça parce que la communauté de professeurs ne veut pas dire au directeur. Et souvent, je trouve que quand je parle au directeur, et après, le directeur annonce à l'école, nous allons faire ceci. Il y a des professeurs qui viennent après dire, on a dit ça depuis 3 ans et personne ne nous a écouté. Donc, si aussi utiliser un consultant comme moyen politique, c'est pas une mauvaise idée non plus si vous trouvez que vous êtes un peu bloqué.
Merci beaucoup, Yoann. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer.
Ça m'a fait un plaisir.
Puis bon retour, puis bon décalage horaire.
Merci. Et vos questions, elles étaient dures. C'est comme un entretien d'emploi.
C'est bon, vous avez l'emploi.
Ouais.
Merci. Salut.